Bonjour à tous. Nous avons entrepris, je dis nous, les orateurs qui se succèdent ici, entrepris de parler des personnages bibliques. Alors, le choix est très large, évidemment, et on a fait ça depuis le début de l'année. Et personnellement, alors je le dis à chaque fois, pardon pour ceux qui en sont à la dixième écoute de la même phrase, je m'efforce et on s'efforce de tirer de la vie ou de des activités de ces personnages bibliques des leçons pour nous, pour que ce ne soit pas simplement un propos documentaire qui ne présenterait aucun intérêt, mais que ce soit vraiment pédagogique selon ce que la Bible dit d'elle-même, c'est-à-dire que tout ce qui est écrit l'a été pour nous enseigner. Alors, moi, parmi les personnages bibliques, très honnêtement, il y en a un que je ne voulais pas rater parce que j'ai pour lui, on va dire, une sympathie particulière. On peut s'identifier plus ou moins dans les personnages que la Bible décrit. Là, j'avoue que celui-là, si je pouvais ne serait-ce que lui ressembler, ça serait super. Alors, c'est un paradoxe, ce personnage, parce que c'est un personnage du Nouveau Testament, rassurez-vous, je vais finir par vous dire qui c'est, mais c'est un personnage du Nouveau Testament qui n'a rien écrit, ou en tout cas, la Bible ne nous dit pas qu'il ait écrit quelque chose, qui ne fait pas partie des apôtres, qui n'a jamais côtoyé Jésus, qui n'a donc jamais rien écrit et dont on n'a même pas la trace d'une seule de ses paroles. La Bible ne relate aucune de ses paroles. Donc du coup, ça pourrait en faire un personnage de second plan. Or, pas du tout. Ce que la Bible nous en dit nous permet de déduire que c'est un poids lourd. Quand je dis que c'est un poids lourd, si je vous demande qui dans les personnages du Nouveau Testament peut être qualifié comme ça, je pense que parmi les noms qui vont sortir en premier, il y aura Paul, bien sûr. Et effectivement, Paul, dans l'Église naissante, c'est un personnage d'envergure. Eh bien, celui dont je vais vous parler, il a été sur le même plan que Paul, au point que, inévitablement, parce que quand on a affaire à deux grandes figures comme ça, on a tendance à les opposer, inévitablement, ils ont été mis en rivalité. Ils ne se sont pas mis eux-mêmes en rivalité, mais ils ont été mis en rivalité l'un avec l'autre. Celui dont je vais vous parler, évidemment, c'est Apollos. Alors, Apollos, dont je disais que on n'a ni ses écrits ni ses paroles, Apollos, pour savoir le poids qu'il avait, et principalement dans l'église qu'il a enseignée, c'est-à-dire Corinthe, il faut lire, et j'allais presque dire lire entre les lignes, ce que Paul en dit quand lui, il écrit aux Corinthiens. Et alors, il dit ceci, donc c'est dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, et on va commencer au verset 10. Je vous exhorte, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, soyez tous d'accord et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, soyez bien unis dans un même esprit et dans une même pensée. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des discordes parmi vous, et je m'explique. Chacun de vous parle ainsi, alors là je traduis littéralement du grec, moi je suis de Paul. Et là il faut sous-entendre disciple de Paul. Moi, je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Képhas. Alors Képhas, vous le savez, c'est le nom araméen de Pierre. Moi de Christ. Le Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne peut dire que vous avez été baptisé en mon nom. Ah si, j'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Pour le reste, je n'ai baptisé personne d'autre que je sache. Car Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncer l'évangile, et sans recourir à la sagesse du discours pour ne pas réduire à néant la croix du Christ. Et Paul va continuer comme ça, en faisant, quand je dis continuer comme ça, on peut continuer par exemple au chapitre 3 et au verset 4, parce que, quitte à s'expliquer, Paul va jusqu'au bout. « Quand l'un de vous déclare, « Moi, je suis de Paul, et l'autre, moi, je suis d'Apollos, n'agissez-vous pas de manière toute humaine ? Qu'est-ce donc qu'Apollos ? Qu'est-ce que Paul ? Des serviteurs par qui vous avez été amenés à la foi. Chacun d'eux a agi selon les dons que le Seigneur lui a accordés. Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Ainsi, celui qui plante n'est rien, celui qui arrose n'est rien, Dieu seul compte, lui qui fait croître. » Et ça continue au chapitre 4, verset 6, si on veut vraiment être complet. « C'est à cause de vous, mes frères, que j'ai présenté ça sous une autre forme en l'appliquant à Apollos et à moi-même, afin qu'à notre exemple, vous appreniez à ne pas vous enfler d'orgueil en ne prenant pas le parti de l'un contre l'autre. » Vous voyez jusqu'où c'est arrivé ? C'est que à Corinthe, on dit « Moi, dans l'Église, moi, je suis disciple de Paul, parce que c'est grâce à Paul que j'ai tout compris. Hein. » Et sur le même plan, il y en a d'autres qui disent « Bah moi, c'est Apollos. » Ça veut dire que l'enseignement d'Apollos à Corinthe a pesé aussi lourd que l'enseignement de Paul. Et du coup, j'allais dire c'est inévitable, alors que, encore une fois, il n'y a aucune rivalité entre Paul et Apollos, puisque Paul s'en explique. Il y a effectivement un certain courant théologique qui prétend l'inverse, c'est-à-dire qui prétend que le début de la première lettre aux Corinthiens, c'est un règlement de compte. C'est-à-dire que, selon cette théologie libérale, Paul, en fait, réglerait ses comptes avec Apollos indirectement, puisque, effectivement, il fait une sortie assez virulente contre la sagesse du discours, etc. Et selon ces théologiens-là, ça voudrait dire l'espèce d'intello là qui vous a bourré le mou, moi je suis capable d'en faire autant si je veux, mais je veux pas. C'est pas ça que dit Paul. Paul, au contraire, il met en harmonie le travail d'Apollos et le sien en disant tout ça n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. On a chacun sa personnalité, chacun sa manière de faire, chacun sa manière de dire les choses, mais ne cherchez pas des différences ou des divergences ou des contradictions entre nous, il n'y en a pas. Et ça, c'est un jeu facile, parce que effectivement, chacun, je le disais tout à l'heure, ici les orateurs se succèdent, si vous venez, pour ceux qui nous rendent visite, si vous venez dimanche prochain, ce sera quelqu'un d'autre, si vous étiez venu dimanche dernier, c'était encore quelqu'un d'autre. On peut toujours s'amuser à ça, en trouvant dans la phrase de l'un à peu près l'expression contraire de ce qu'a dit l'autre 15 jours avant ou 3 semaines après. Bien sûr, si on veut jouer sur les mots. En réalité, ce que l'Esprit de Dieu permet, c'est que chacun suivant sa ligne, chacun, encore une fois, avec sa personnalité, sa façon de s'exprimer, son sens propre de la compréhension des Écritures, tout ça soit complémentaire et jamais contradictoire. Mais effectivement, vous savez, les hommes politiques savent très bien ça, et les joueurs de foot aussi, c'est que les militants pour les uns et les supporters pour les autres sont souvent plus zélés que les... Il y a rarement, heureusement en France, des hommes politiques qui se tapent sur la figure. En revanche, les militants, ils sont toujours, j'allais dire, plus royalistes que le roi. Pareil pour les supporters. Ça peut aussi, et ça a pu aussi arriver dans l'église de Corinthe. De toute façon, toi, t'as rien compris puisque tu es disciple de Paul, alors que moi, j'ai tout compris parce que je suis disciple d'Apollos. Et l'autre dit évidemment l'inverse. C'est une tentation forte et à laquelle il faut résister, d'opposer les uns aux autres. Mais de voir, enfin, la bonne démarche, c'est au contraire de voir le miracle de la complémentarité. Alors, qui c'est cet Apollos que le livre des Actes nous présente alors pour le coup très succinctement, donc il apparaît au chapitre 18 des Actes, on ne nous en dit pas grand-chose. Donc ça se passe d'abord à Éphèse et ensuite à Corinthe. Chapitre 18, verset 24. Un juif, donc on sait qu'il est juif, nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, pas pour rien qu'on nous dit ça, était arrivé à Éphèse. C'était un homme intelligent et qui connaissait les Écritures. Il avait été informé de la voix du Seigneur et l'esprit plein de ferveur, il prêchait et enseignait exactement ce qui concernait Jésus, tout en ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit donc à parler en toute assurance dans la synagogue, mais lorsqu'ils l'eurent entendu, Priscille et Aquilas, alors vous savez qui sont Priscille et Aquilas, je ne vais pas vous les décrire, le prirent avec eux et lui présentèrent plus exactement encore la voix de Dieu, comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, les frères l'approuvèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Une fois arrivé, il fut par la grâce de Dieu d'un grand secours aux fidèles, car la force de ses arguments avait raison des Juifs en public quand il prouvait par les Écritures que le Messie c'était Jésus. Là, on comprend mieux pourquoi cet homme a pu se placer ou être placé sur un pied d'égalité avec Paul quant à la qualité de son enseignement. D'abord, il est d'Alexandrie. Alexandrie, donc, capitale de la Haute-Égypte, ça tout le monde le sait. Alexandrie, aussi plus grande bibliothèque du monde à l'époque, bibliothèque qui malheureusement va partir en fumée lors de la conquête par les Romains, mais c'est la ville, alors ça ne veut pas dire que parce que Alexandrie est une ville d'intellectuels, tous les Alexandrins sont des intellectuels, c'est bien entendu. Mais ça veut dire que quand on est un intellectuel à Alexandrie, c'est pas comme quand on est berger dans la montagne. C'est-à-dire qu'on est confronté au débat d'idées en permanence. Alexandrie, c'est un foisonnement d'idées. C'est un foisonnement de débats, c'est un foisonnement intellectuel permanent. Et donc, être chrétien à Alexandrie, ça veut dire être contraint en permanence, quasi quotidiennement, de défendre sa foi de manière, alors, comprenez-moi bien, de manière raisonnée. C'est-à-dire, il faut entrer dans le débat. Alexandrie, j'ouvre une parenthèse, c'est aussi, vous le savez sans doute, la ville où on a décidé, et c'était pas rien comme décision, où on a décidé de traduire la Bible en grec, enfin la Bible, l'Ancien Testament bien sûr à l'époque. Mais l'Ancien Testament, qui n'était évidemment qu'en hébreu, à Jérusalem, capitale de la religion juive, il était hors de question, puisque Dieu parle hébreu, c'est bien connu. Même Paul pensera ça. Même Paul, qui va mépriser, mais jusqu'au bout du bout du mépris, cette bande de va-nu-pieds venus du lac du Nord, en disant « Mais comment vous pouvez croire ces types qui sont des ploucs, qui parlent araméen ?» qu'il dit, mais si Dieu doit parler, il parle hébreu. Et quand Dieu va parler à Paul, ou plutôt quand Paul va raconter sa rencontre avec Dieu, et sa rencontre avec Jésus, parce que quand il va lui dire « Tu es qui ?», Jésus va répondre « Je suis Jésus, c'est moi que tu persécutes. » Mais Paul prendra la peine de dire « Ça, il me l'a dit en langue hébraïque, et il m'a appelé Shaoul. » Parce que Dieu parle hébreu, bien sûr. Bref, c'est bien sympa un Dieu qui parle hébreu, mais un Dieu que plus personne ne comprend, parce que la fameuse diaspora, c'est-à-dire la dispersion des Juifs dans le bassin méditerranéen, bien sûr, la première génération, elle parle hébreu, la deuxième, un peu, la troisième, elle parle la langue du pays. Et la langue du pays, au sens large, c'est-à-dire la langue que tout le monde comprend autour de la Méditerranée, et manque de bol, c'est pas la langue de Dieu, c'est pas l'hébreu. Tout le monde ne comprend pas l'hébreu autour de la Méditerranée. Donc si vous allez faire vos courses, il faut bien parler la langue que tout le monde comprend. Et la langue que tout le monde comprend, c'est le grec. Alors, on est face à ce dilemme, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on est une religion fermée? C'est-à-dire, ben, celui qui veut vivre son judaïsme, eh ben, il se débrouille, il prend des cours, hein. Il a qu'à apprendre l'hébreu, après tout. Et puis, il a qu'à venir à Jérusalem, puisque c'est là que Dieu est. Ou alors, il y a une conception ouverte de la religion. Et là, vous comprenez les leçons qu'on peut en tirer. Nous, aussi. Il y a toujours une conception fermée et une conception ouverte du rapport à Dieu. La conception ouverte, c'est celle qui va l'emporter à Alexandrie. Et on va dire, ben, si on veut être compris de nos enfants, de nos petits-enfants, de nos arrière-petits-enfants, qui de toute façon ne parleront plus l'hébreu, il faut traduire la Bible en grec. Et donc, c'est la fameuse, ben, pour ceux qui savent, c'est la fameuse Bible des 70. Alors pourquoi est-ce qu'on le dit en belge, je sais pas, c'est la Bible des 70. Pourquoi 70? Parce qu'on va réunir exactement 72 d'ailleurs, et pas 70, 72 savants, enfin linguistes, 6 par tribu, donc 6 fois 12, pour faire cette fameuse traduction qui n'est pas simple du tout, parce que c'est très compliqué de passer de l'hébreu au grec. Ce sont deux langues où les représentations sont très éloignées les unes des autres. Bref, on a cette vision-là à Alexandrie, d'une religion ouverte, une religion qui s'adresse au monde et pas qui se recroqueville sur elle-même. Et donc, quand on nous dit que Apollos venait d'Alexandrie, ça veut dire tout ça. Ça veut dire qu'il est ouvert au débat et que lui, il va s'adresser. Alors, effectivement, on dit qu'il parle dans la synagogue aussi, mais encore une fois, c'est un intellectuel ouvert. Donc, il va effectivement faire un gros travail pour Dieu. Parce que il va s'adresser au-delà des Juifs, il va s'adresser à tous les gens dont il maîtrise parfaitement la culture. Alors, vous me direz, bon, en quoi est-ce que il peut être exemplaire pour nous, cet Apollos? Eh bien, je vais prendre, alors, exemplaire, il le sera pour les uns, pas forcément pour les autres, mais je prends quand même j'isole, si vous voulez bien, trois phrases. La première, c'est celle sur laquelle je me suis arrêté dans ma lecture, qui est la fin du verset 24. Alors, on peut le traduire de bien des manières, mais ça dit deux choses. Ça dit, un, c'était quelqu'un qui était très bien équipé intellectuellement, et deux, c'est quelqu'un qui avait bossé, et notamment bossé dans l'étude des Écritures. Ça, c'est une leçon, parce qu'en fait, effectivement, Apollos est une pointure de l'envergure de Paul. Même si le Nouveau Testament parle plus de l'un que de l'autre, il est vraiment à mettre sur le même plan. C'est le résultat de quoi? Un type hyper doué? Oui, c'est vrai. Un type extrêmement intelligent, à la base. Et aussi, un travail considérable. Il a travaillé l'étude des Écritures. Et s'il est aussi convaincant, c'est-à-dire si on peut en dire la force de ses arguments avait raison des Juifs en public quand il démontrait par les Écritures que le Messie c'était Jésus, ça vient pas tout seul. Ça vient pas tout seul. En un mot commençant, Apollos, c'est d'abord quelqu'un qui a fait fructifier les talents que Dieu lui a donnés. Alors, des talents, il en a eu beaucoup. Bon, vous connaissez la fameuse parabole des talents. C'est-à-dire que à l'un, Dieu donne 5, à l'autre 2, et au troisième 1. Dieu ne demande pas un résultat disproportionné. Il ne demande pas à celui à qui il a donné 2 de rapporter 5. Il demande, celui qui rapporte 2 de plus a le même compliment que celui qui rapporte 5 de plus. Parce que il a mis en œuvre et mis en valeur ce que Dieu lui a donné. Et Dieu ne donne pas la même chose à tout le monde. Dieu n'a pas donné à tout le monde la capacité intellectuelle d'un Paul ou d'un Apollos, c'est entendu. Mais, et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire que Jésus, dans sa parabole, semble suggérer que l'inné vaut autant que l'acquis, et inversement, puisque c'est 5 pour 5, 2 pour 2, et malheureusement pour celui qui a 1, lui, il fait rien. Mais il est possible, avec 5 talents au départ, de les faire travailler pour en avoir 5 autres, et avec 2 au départ, de les faire travailler pour en avoir 2 autres. C'est-à-dire que comme on dit au foot, il a du potentiel, bon, mais le potentiel n'est rien s'il n'y a pas du travail derrière, mais le travail peut être payant, c'est-à-dire peut doubler le capital de départ. Et Apollos, c'est ce qu'il a fait. Apollos, c'est encore une fois, c'est un lieu commun de le dire, mais la Bible approuve et entérine cette analyse. Effectivement, un travail acharné sur un désert de capacité, ça donne pas grand-chose. Et effectivement, il y a des gens qui apprennent la Bible par cœur aussi. Hein. Mais bon, c'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande qu'on la comprenne. Jésus, il a passé son temps à dire à ses disciples, comprenez ce que je vous dis. Pas apprenez par cœur. Comprenez ce que je vous dis et comprenez ce que je fais. Et Apollos, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné la capacité de comprendre. Et ce serait d'autant plus coupable de la part d'Apollos, puisqu'il a reçu ces capacités-là, de ne rien en faire, c'est-à-dire de ne pas les travailler. Alors, encore une fois, on n'est pas tous des Apollos, et je ne compare pas ce qui n'est pas comparable, je ne suis pas un Apollos, ça se saurait. Je dis simplement que dans la parabole, il n'y a pas zéro talent. Il n'y a personne de qui on dit, et celui-là, Dieu ne lui a rien donné, donc il ne lui a rien demandé. Il n'y en a pas. Il y a 5, 2, 1. Ça veut dire quoi ? Tout le monde n'a pas la même chose. OK. Mais ça veut dire tout le monde a quelque chose. Et donc tout le monde a quelque chose à faire fructifier. Et moi, je demande à Dieu de faire de moi un Apollos, non pas de me donner les capacités intellectuelles qu'il a données à Apollos, ça c'est trop tard. C'est entendu. Non, je lui demande de me donner le courage de faire fructifier mes talents autant qu'Apollos a fait fructifier les siens. Il est devenu incollable et, j'allais dire, imbattable dans la controverse et dans la discussion, parce qu'il a ajouté au don que Dieu lui a donné un travail acharné. Y a des gens que je vois ici, allez, on va prendre Esther au hasard, qui ne me contredira pas si je dis que il y a des dons au départ. Mais si on les travaille, je parle évidemment de la musique, il y a des dons au départ, parce qu'évidemment, moi, j'aurais pu faire 10 heures de violon par jour, ce serait toujours le massacre. Donc, heureusement, pour les voisins, bon, très bien. Mais tu m'accorderas aussi que le talent que Dieu t'a donné dans ce domaine-là, si tu ne l'avais pas travaillé avec acharnement, à l'arrivée, on est d'accord. Et chacun, je pourrais en dire autant de chacun peut faire cette expérience. Donc je vais pas m'attarder sur quelque chose que tout le monde a bien compris. La première exemplarité que je trouve chez Apollos, c'est tout simplement que d'abord il s'est pas trompé. Il a parce que si moi je me mets à travailler la musique, ça veut dire que je me trompe. J'essaye de faire fructifier des talents que Dieu ne m'a pas donné, donc ça marchera pas. Et à l'inverse, du coup, je perds mon temps puisque je ne fais pas fructifier ce que j'ai. Donc la première chose, c'est identifier ce qu'on a reçu de Dieu. Vous voyez, Jésus a dit à propos de Jean-Baptiste, il n'y en a pas eu de plus grand que lui, et qu'est-ce qu'il a compris Jean-Baptiste ? Il a résumé ça en une phrase, l'homme ne peut recevoir que ce qui lui est donné d'en haut. C'est-à-dire, c'est pas la peine de tirer sur l'herbe pour qu'elle pousse, on a reçu, et donc il faut faire avec ce qu'on a reçu, mais ce qu'on n'a pas reçu, il ne faut pas aller le chercher, c'est pas la peine. Donc voilà. Que Dieu, déjà, me donne de savoir de quoi je suis potentiellement capable, et puis mes potentialités, de les travailler. La deuxième qualité que je trouve chez Apollos, elle est dans le récit suivant. Ça vous a peut-être pas frappé, mais je vous assure que c'est frappant. Donc, il se mit à parler en toute assurance dans la synagogue. Mais lorsqu'ils l'eurent entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux et lui présentèrent plus exactement encore la voie de Dieu, comme il avait l'intention de se rendre en Achaïe, etc. Il faut prendre la mesure de ce qui se passe. Apollos, donc l'intellectuel, on ne peut pas lui nier ça, parle dans la synagogue et parle de manière tellement convaincante que personne ne peut moufter. C'est tellement... Enfin, les grands intellectuels, j'en ai pas côtoyé beaucoup dans ma vie, mais je vous assure que c'est impressionnant parce que c'est tellement évident ce qu'ils vous disent, en plus avec des mots simples, mais qui sont des choses complexes, que vous vous dites, mais d'abord, on se sent plus intelligent quand on a fini de les écouter, mais ça, c'est une illusion. Mais surtout, on se dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Tellement évident. Et l'effet Apollos, c'est ça aussi. Sauf que là, à la sortie, comme il pourrait y avoir à la sortie de la synagogue, il y a un couple, gentil, hein, qui disent, alors voilà, ce que tu as raconté, c'est bien, tu as presque tout compris, et si tu veux, on t'explique le reste. Ah bah gonflé, dit. Non mais, faut... La deuxième leçon que je prends d'Apollos comme modèle, c'est qu'il a la modestie intellectuelle de se dire, ces gens-là ont peut-être quelque chose à m'apprendre. Mais vous savez que c'est pas évident. C'est pas évident. Parce que, comme vous le savez, je vais pas vous dépeindre le portrait de Priscille et Aquilas, d'abord c'est une femme. Alors heureusement qu'il est d'Alexandrie, où comme je disais tout à l'heure, on a l'esprit ouvert, il aurait été de Jérusalem. Une femme qui vient vous dire à la sortie « j'ai des choses à t'apprendre », ouais, déjà. Et puis son mari, qui est gentil, tu fais quoi dans la vie ? Je travaille chez Quechua, je fais des tentes. Ouais. Bon, d'accord, et tu veux m'apprendre des trucs ? J'ai lu la Bible 10 fois dans chaque sens, et toi t'as encore des choses à me dire que j'aurais pas compris ? Ailleurs que dans l'Église, certainement ça marche pas. Certainement, ça marche pas. Enfin, je m'imagine une seconde à la fin d'une conférence de Paul Ricoeur en train d'aller lui dire « C'est pas mal, mais un petit plus peut-être. » Bon, évidemment. Dieu a voulu l'Église autrement, c'est-à-dire à l'envers. Les faibles, enfin, cette forme-là de faiblesse dont il se sert pour renforcer la force des forts. L'Église, c'est une mutualisation. Alors, dans l'Église du début, on dit que matériellement, vous connaissez la phrase, matériellement, ceux qui avaient trop, enfin, ceux qui avaient beaucoup, n'avaient pas trop, parce qu'il y avait un partage qui faisait que ceux qui avaient peu ne manquaient de rien. C'est vrai aussi sur le terrain, je vais pas dire intellectuel, sur le terrain spirituel. C'est-à-dire que Dieu donne, on sait qu'il nous donne les uns pour les autres, sinon l'Église n'aurait pas de sens. Chacun chez soi, on s'enferme dans sa chambre, on ferme la porte et Dieu est là. D'accord. Et puis chacun une Bible. Aujourd'hui, les progrès de l'imprimerie permettent qu'on ait ça, voilà, on n'a même pas besoin de papier, on a ça sur sa tablette, bon, très bien. Si on se rassemble, c'est parce que Dieu a décidé, c'est sa souveraineté, Dieu a décidé qu'il y a des choses qu'il avait l'intention de me donner, mais par l'intermédiaire d'autres de ses disciples. Des choses qu'il a décidé de ne pas me donner directement, de ne pas mettre directement dans ma tête, même si j'ai reçu son esprit. Parce que, en ayant reçu son esprit, je ne sais pas tout, je ne comprends pas tout, je ne réalise pas tout, et Dieu fait en sorte que ça me vienne par l'intermédiaire des autres, de manière... non pas immédiate, mais médiatisée. Donc ça veut dire que vous avez des choses pour moi. Et ça veut dire que si je me prends pour ce que je ne suis pas, c'est-à-dire si je me dis « lui » ou a fortiori « elle », qu'est-ce qu'elle pourrait bien m'apprendre, que je ne sais déjà ? Ben là, je me prive de quelque chose. Parce que imaginez Apollos disant à Priscille et Aquilas « vous êtes mignons, vous formez un beau couple ». Bon, par contre, moi, j'ai le niveau d'un agrégé de philosophie, donc vous allez être gentil, vous allez rentrer chez vous, faire votre popote, et puis on va s'en tenir là, hein. Mais vous n'avez pas la prétention de m'apprendre des trucs que je ne sais pas. Eh ben, il serait où, Apollos ? Et, encore une fois, chacun reçoit pour lui et pour les autres dans l'Église. Et donc, celui qui va m'apprendre ce que je ne sais pas encore, d'abord, il faut accepter l'idée que on ne sait pas tout, on n'est jamais au bout. Parce que, avec ces années d'études de la Bible, enfin d'études des textes et de réflexion et de discussion et de l'alexandrin, là, voyez, la tête comme un chou-fleur, il peut se dire, bon, ça y est, maintenant j'ai fait le tour de la question, du coup je peux parler dans la synagogue, et je suis incollable, donc plus rien à apprendre. C'est quelqu'un d'ouvert aussi dans ce domaine-là, c'est-à-dire quelqu'un qui sait qu'il n'est pas arrivé au bout du chemin de la connaissance. Aucun de nous n'est arrivé au bout du chemin de la connaissance. Et la décision de Dieu, surprenante, mais c'est la réalité, c'est que parfaire notre connaissance se fait par l'intermédiaire de gens que souvent on n'aurait pas soupçonné capables de nous apporter quelque chose. Donc, je demande à Dieu, c'est la deuxième leçon, d'essayer de discerner ça. De me donner, oui, la capacité de discerner ça chez les autres. Et la troisième et dernière, je vous rassure, remarque que je fais, alors là, est-ce que c'est une qualité, est-ce que c'est un défaut, est-ce que ça n'est ni l'un ni l'autre ? Je vous laisserai le soin d'en juger. Ça me rend plutôt Apollos sympathique. Il est possible que vous, ça vous le rende franchement antipathique, mais je m'en expliquerai. À la fin de sa lettre, donc au début de la lettre aux Corinthiens, Paul parle beaucoup d'Apollos, et pas du tout, encore une fois, de manière revancharde, pas du tout, on va régler des comptes, mais son discours, ça consiste à dire n'essayez pas de nous dresser l'un contre l'autre, d'abord parce que vous n'y arriverez pas, et puis surtout parce que prenez conscience que c'est une richesse pour vous qu'on soit complémentaires. Et donc, une fois qu'il a traité le sujet, on pourrait penser que Apollos, on n'en parle plus. Et si, on en parle encore, juste à la fin, donc chapitre 16. Alors là, pour le coup, je suis d'accord avec, je vous ai dit tout à l'heure que je n'étais pas d'accord avec une certaine analyse théologique, là, inévitablement, il y a une nuance d'agacement dans les propos de Paul. Je ne vais pas vous dire le contraire. Quant à notre frère Apollos, je l'ai vivement engagé à aller chez vous, avec les frères, mais il ne veut absolument pas venir maintenant, il ira quand il aura le temps. Ça veut dire quoi ? Alors, encore une fois, je vais pas avoir la prétention de vous dire qui est Paul, mais Paul, c'est un, je vais pas dire un chef d'entreprise, parce que c'est une notion englobante, mais c'est au moins un chef d'équipe. Je me suis amusé à faire la liste des gens que Paul dirige. Il faut pas, on peut pas appeler les choses autrement. Quand il dit je vous ai envoyé Épaphrodite ou je vous ai envoyé Tychique, ou ça veut dire que il a des collaborateurs. D'ailleurs, il les appelle comme ça. Alors, entendons-nous, il n'y a pas de mépris dans le terme collaborateur. En grec, c'est synergoi. Synergoi, c'est le nom grec dont on a tiré synergie en français. Donc, c'est encore une fois une complémentarité. Mais il est clair que c'est Paul le patron. Et donc, il dit à l'un, tu vas là, à l'autre, tu vas là, toi, tu fais la collecte, toi, tu rapportes la collecte, toi, tu vas prévenir, machin. Bon. Et hop, tout le monde se met en mouvement. Très bien. Et Paul est habitué à fonctionner comme ça. Avec Apollos, Paul ne dit pas, j'ai dit à Apollos et il m'a envoyé promener. Non, il lui a suggéré fortement. Alors, suggéré fortement de la part de Paul, on imagine que c'est bon. Sauf que l'autre... Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et je verrai ça plus tard. Ah ouais ? Et Paul prend acte du fait que Apollos, alors encore une fois, est-ce une qualité, est-ce un défaut ? À vous d'en juger. Apollos, c'est un électron libre. C'est pas justement quelqu'un qui fonctionne facilement en synergie. c'est quelqu'un qui vit son truc dans son coin et il attend que Dieu lui demande, voilà. Mais de là à s'inscrire dans une équipe, enfin, on sent que pour lui ce serait, d'ailleurs, la réponse qu'il fait à Paul est éloquente, on sent que pour lui ce serait contraignant. Et moi, ce qui me plaît, alors encore une fois, peu importe que ce soit une qualité ou un défaut, mais vous l'avez compris, toujours pour prendre une image du sport, Apollos, il est plus tennis que foot, hein. Plus je me débrouille tout seul que je joue en équipe. Bon. Moi, ce qui me plaît de constater, c'est que dans l'Église, il y a la place pour les deux. Dieu ne se dit pas, bon, celui-là, je l'ai bien équipé intellectuellement, il a beaucoup bossé, mais par contre, je peux rien en faire parce que c'est une tête de lard. On lui fait faire que ce qu'il veut faire. Donc, comment voulez-vous utiliser un type comme ça ? Moi, je ne recrute que des gens qui savent travailler en équipe. Or, c'est pas ce que Dieu fait. Dieu ne met pas Apollos sur la touche en disant, toi, t'es un individualiste, je peux rien faire de toi. C'est un individualiste, très bien. Enfin, très bien ou très mal, mais peu importe, je le prends comme il est. Et je l'utilise avec son tempérament. C'est-à-dire, je fais ce que je veux quand je veux, et puis tu me dis pas où je vais, et puis tu me dis pas ce que je fais. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à côté d'un Timothée, à côté d'un... ça manque de docilité, ça manque de souplesse, tout ça, mais est-ce que dans l'Église, il y a vraiment la place que pour des gens qui savent s'intégrer à une équipe où on donne des ordres, où on en reçoit, où il faut forcément marcher au pas. Encore une fois, que ceux qui sont capables de ça ne se sentent pas froissés, au contraire. L'équipe de Paul a été, nous le savons, terriblement efficace. S'il n'y avait pas Paul et son équipe, s'il n'avait pas ce sens du recrutement, ce sens des ressources humaines, comme on dira aujourd'hui, et s'il n'était pas un dirigeant hors pair, Paul n'aurait pas eu le résultat qu'on sait. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'ici. Voilà le résultat du travail de Paul. Voilà ce qu'on dit tout autour du bassin méditerranéen. Bon, c'est pas rien comme bilan. Mais il y a aussi la place pour un type qui dit, ben moi, vous ne me dites pas ce que je dois faire et quand je dois le faire. Je ferai quand j'aurai envie. Ces individualités-là, encore une fois, il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur, qu'est-ce qui est le mieux, qu'est-ce qui est le moins bien. Je dis simplement que, et c'est une grâce, Dieu nous prend comme on est, y compris sur le terrain de la personnalité. C'est-à-dire que ceux qui ont besoin, parce que vous avez remarqué que Apollos, il n'aime pas recevoir des ordres, mais il n'a pas envie d'en donner non plus. C'est pas non plus un meneur d'homme. Il n'y a pas la bande à Apollos, il y a Apollos. Donc, des ordres, moi, j'en donne pas et j'en reçois pas non plus. Et puis, il y a Paul, et puis il y a Timothée, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont faits pour diriger les autres, et c'est très bien, c'est pas une tare, hein, au contraire. Et puis, il y a des gens qui sont faits pour entrer dans le projet de quelqu'un d'autre et se faire manager, c'est-à-dire optimiser les capacités par quelqu'un qui aura l'étoffe d'un leader. Donc il y a les trois catégories dans l'Église. Et ce qui est plaisant de constater, c'est que Dieu sait utiliser les trois types de personnalités. Il aurait pu faire en sorte que Paul soit frustré toute sa vie en lui disant, mais dans l'Église, il n'y en a pas des qui donnent des consignes aux autres. Donc Paul, du coup, qui est quand même fait pour ça, qui est quand même fait pour diriger, non. Paul a cette capacité-là, Dieu va faire en sorte que. Pareil pour les membres de l'équipe, qui ont ce dynamisme, cette bonne volonté, mais qui ne sont pas des visionnaires et qui ont besoin que quelqu'un pense à leur place de ce qu'il faut faire et de là où il faut aller. Très bien. Et puis il y a les électrons libres, il y a les Apollos, qui font leur truc dans leur coin. Quand on leur suggère quelque chose, mais on peut s'appeler Paul ou on peut s'appeler qui vous voulez, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Ces gens-là trouvent aussi leur place dans l'Église, et c'est bien. Donc voilà, ce que j'ai peut-être été, enfin, je sais pas, c'est un peu court, un peu long, mais c'est toujours trop long ou trop court. En tout cas, moi, je souhaite qu'à l'image de, à l'image d'Apollos, Dieu, un, me rende capable de travailler mon talent au maximum, quel que soit ce qu'il m'a donné, je veux le faire fructifier pour que ça rapporte au moins autant que la mise de départ. Que deux, je sois toujours capable d'être enseigné par des gens dont je ne soupçonnerais pas qu'ils soient capables de le faire, et que Dieu me donne cette ouverture, et qu'il me mette surtout à l'abri de la suffisance intellectuelle, qui est une tare absolue, et qui consiste à dire, moi de toute façon, je sais tout sur tout, donc vous m'apprendrez rien. Ça, c'est de la folie absolue. Et puis, que je sois un meneur, ou un électron libre, ou quelqu'un qui entre dans la dynamique d'un leader, qu'il m'utilise au maximum, j'allais dire, de mes capacités de personnalité et d'intégration dans son projet. Voilà, je suis, en lisant ces lignes sur Apollos, je suis émerveillé par la capacité de Dieu à nous prendre comme nous sommes et non pas comme idéalement on aurait pu être. Et pourtant, il se sert de nous. Et c'est une grâce.